d'art neutre, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.
Bonjour et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu. Avec nous dans le studio aujourd'hui, Hylaine Grange. Bonjour Hylaine.
Bonjour
Alice. Amandine Vincent.
Bonjour.
Et moi-même pour faire une émission spéciale sur Rosa Luxembourg. En fait, plus précisément, c'est pas vraiment une émission sur Rosa Luxembourg. On participe à un marathon de lecture radiophonique sur un polar. Donc un polar qui s'appelle Rosa, écrit par un écrivain anglais, Jonathan Rapp. Et donc c'est dans le cadre d'une quinzaine Rosa Luxembourg. Tout un programme de festivités qui se déroule à Saint-Étienne depuis hier et jusqu'au 31 mai. Quinzaine de lectures, performances, expositions, concerts, programme que vous pouvez retrouver sur leur blog. Un blog qui s'appelle Rosa Luxembourg, quinzaine Rosa Luxembourg Blogspot sur Internet. Dans cette cadre de cette quinzaine Rosa Luxembourg, il y a plein d'activités, plein de choses qui se passent. Et ben nous, on va lire la dernière partie de ce roman, donc Rosa. Pour vous expliquer un peu le concept, il y a d'autres radios qui se joignent à ce marathon de lecture radiophonique. Il y a Radio Dio, Radio d'ici et Radio Berlu. Donc voilà, on est très contents, nous, Radio Canu et le Théâtre de la Gamelle, de pouvoir participer à cette grande lecture, ce marathon de lecture radiophonique. L'intégralité de la lecture sera rediffusée sur les ondes de Radio Dio le 31 mai à partir de 17h. On vous détaillera un petit peu le programme de la quinzaine de Rosa Luxembourg si on a un peu de temps à la fin de l'émission pour vous inciter très fortement à aller à Saint-Étienne. Donc avec Hylaine et Amandine, on a un peu bossé sur la lecture de ce polar et on va vous faire écouter un petit peu cette dernière partie. Donc je pense que pour comprendre l'intégralité du polar, il faudra quand même que vous procuriez le 31 mai soit l'enregistrement, soit que vous l'écoutiez en direct à 17h, ce roman édité chez 10-18. Je précise aussi que l'adaptation a été faite par Josiane Karl. Voilà. Il pleuvait de nouveau et les rues qui entouraient la place ruisselaient de neige fondue. Depuis la pénombre, Hoffner observa les environs à travers la lumière du réverbère battu par le crachin. Ils avaient choisi une petite devanture de boutique dont la vitrine offrait une vue parfaite des entrées secondaires de l'Alexanderplatz. Quelques soldats déambulaient, sans but. Deux autres s'étaient postés sous un porche et s'efforçaient de rester secs. À part eux, personne. Lorsqu'un des sbires de Pim sortit une cigarette, une voix près de la porte chuchota.
« Allume ça et tu perds un doigt. »
Pim avait confié le commandement à Zenlo. Silhouette squelettique, tapis dans l'ombre, qui surveillait l'extérieur. Hoffner avait attendu presque une heure au Rucker. Ne voyant pas Ficht arriver, il avait conclu que le jeune homme s'était dégonflé. Toute autre possibilité se révélait trop préoccupante. La nouvelle avait déplu à Pim qui ne voulait pas de Hoffner dans les parages de l'Alexanderplatz, mais même les plans les plus mieux conçus.
Et vous êtes sûr qu'ils viendront la chercher ?
Avait demandé le malfrat. Hoffner en était certain.
Tant que vos camarades sont en position, il a déjà travaillé pour moi. Il exécutera les ordres.
À 8h à peine passées, les premiers échos s'élevaient au-dessus de la place, en un mugissement lointain, comme si les rues elles-mêmes prenaient leur souffle. Quiconque, ayant vécu les événements de décembre et janvier, ne pouvait que reconnaître le grondement d'une multitude qui approchait. La foule se massait à l'autre bout de l'Alexanderplatz. Les soldats avaient eux aussi entendu le brouhaha et partirent au pas de course.
40 minutes,
déclara Zenlo qui se tourna vers ses hommes.
Maintenant tu peux la fumer ta cigarette, crétin.
On avait à peine la place de respirer. Yogishi avait oublié la sensation que l'on éprouvait dans une foule en mouvement, la pulsation des corps partout autour de soi. Il avait oublié aussi l'émotion générée par la colonne qui se meut comme un seul homme, la chanson qui naît du martèlement des pas, le rythme qui dépouille chacun de son individualité. Presque 15 ans qu'il n'était pas sorti de l'ombre. À l'époque, il puisait sa force dans le possible, dans un objectif. Varsovie, Rosa. À présent, il avançait seul, se laissait porter par le courant sans en faire partie. Il regarda le ciel nocturne et savoura la caresse de la pluie sur son visage, l'air humide dans ses poumons, et inspira, comme s'il sentait venir l'irrévocable. La colonne vira et investit la place. Le rythme s'accéléra. Yogiché vit les escouades se déverser à l'autre bout et se mit à courir de plus en plus vite, alors que les premiers coups de feu résonnèrent dans la nuit. Zenlo emmena Hoffner jusqu'à la grille. Derrière le bâtiment, la bataille faisait rage, mais là, dans la rue transversale, à moins d'une centaine de mètres, il régnait un calme inquiétant. Hoffner sortit sa clé et ouvrit la serrure extérieure. Zenlo craqua une allumette, et peu après, les cinq complices pénétrèrent dans l'Alex. Ils gagnèrent l'escalier du fond sans encombre, et Hoffner passa devant. Hoffner marquait tout de même une pause à chaque palier. Le bruit se fit plus marqué, et une ombre apparut sur le mur du couloir. Sous cet angle, Hoffner ne distingua que le haut d'une tête à son passage. Il pensait qu'il pouvait s'agir du commissaire Brown qui se dirigeait vers l'avant du bâtiment. Mais ce ne fut qu'une conjoncture. Puis au bout d'un moment, Zenlo rangea son arme et fit signe à Hoffner de passer devant. La poignée de la porte était aussi froide que l'avait décrite Ficht. Un des malfaiteurs se mit aussitôt au travail et força la serrure en quelques secondes. Il s'écarta et laissa Hoffner ouvrir la porte. Lorsqu'ils furent tous les cinq à l'intérieur, Zenlo la referma et actionna l'interrupteur. La précision à laquelle Hoffner assista au cours des quelques minutes suivantes le stupéfia. Deux hommes qui tenaient la grosse toile pour le corps, deux autres qui s'occupaient du caisson. Hoffner se concentra sur les bocaux qu'il emporta un par un à l'évier, puis il tourna le robinet et les vida. La puanteur de la graisse l'obligea à plaquer son mouchoir sur son nez, mais malgré cette protection rudimentaire, il sentit la tête lui tourner. Il remarqua alors la deuxième table d'autopsie. Dessus reposait un cadavre, recouvert d'un drap. Une de ses mains pendait. Il devinait qui gisait dessous. Lorsqu'il souleva le linceul, Hoffner se trouva face au regard fixe et froid de Ficht. Brown n'avait même pas pris la peine de lui fermer les paupières. Hoffner s'en chargea et nota la légère décoloration des lèvres et de la langue. Il se pencha, sentit une faible odeur métallique qui s'attardait dans la bouche.
Acide prussique, peut-être oxalique.
Dans les poumons de Ficht, l'un ou l'autre aurait été instantanément fatal. Il remit la main de Ficht sur sa poitrine, puis, après être resté immobile quelques secondes, remonta le drap. Il revint au plan de travail et vida le bocal suivant. Lorsque Brown entra dans la cellule, la mâchoire de Yogiché était déjà enflée, sa lèvre fendue. Humide et sans âme, la pièce se trouvait à l'écart des autres, destinée à ce genre d'interrogatoire. Menotté à une chaise, les bras liés dans le dos, Yogiché subissait les coups de Tarnchik depuis 20 minutes. Hermanson l'assommait de questions, mais ni l'un ni l'autre n'avait obtenu le moindre résultat. Brown plaça une deuxième chaise en face de Yogiché et s'assit.
« Il semblerait que ça parte à volo là-bas, mein Herr, »
déclara-t-il avec une compassion feinte.
« Les gardes de la caserne ont investi la place. On a envoyé un char du dépôt de Charlottenburg et il se pourrait même que l'on voie un ou deux lance-flammes. »
Brown esquissa un sourire ironique, même si Yogiché regardait droit devant lui. dans le vague.
À Bogashi, non ?
Brown tendit la main et Hermanson lui remit un dossier, qu'il feuilleta.
Ça ne vous ressemble pas de vous montrer lors d'une de ces échauffourées, n'est-ce pas, mein Herr ? Et puis, être pris dans la première vague d'arrestation, quelle négligence !
Brown tourna une page et s'interrompit.
La prochaine fois, il faudra être plus prudent.
Brown leva les yeux.
Vos camarades, au moins, nous avons dû les traquer avant de les capturer.
Le regard de Brown se durcit. Yogisha, lui, continuait à l'ignorer.
Maintenant, vous allez m'expliquer en détail ce que Herr Hoffner sait de Munich, de l'hôtel Eden et tout ce qui, d'après vous, serait susceptible de m'intéresser.
La pièce devint silencieuse. Yogisha leva enfin la tête vers Brown.
Étonnant qu'une petite juive vous ait causé tant de problèmes, Herr Oberkommissar. La jeter dans le canal, c'est là que vous avez commis une erreur.
Yogisha vit le visage de Brown se crisper. Il cracha un filet de sang par terre.
Avez-vous l'heure, Herr Oberkommissar ?
Brown eut une seconde d'hésitation.
Pardon ?
Yogisha se délecta de le voir se creuser les méninges derrière son air impitoyable.
Il est autour de 9h, 9h30, c'est ça ? Je veux juste savoir depuis combien de temps Rosa a quitté le bâtiment.
Il perçut le bref éclair de colère dans le regard de Brown et poursuivit.
Il faudra que je sois plus prudent la prochaine fois. En effet, Herr Oberkommissar, que je tâche d'être moins négligent.
Il marqua une pause.
Vous aussi, je suppose.
Brown réprima sa réaction.
Vous croyez avoir réussi un tour de force ?
Le policier se leva.
Ça ne change rien.
Ajouta-t-il avec un calme trop étudié. Yogisha fixa de nouveau le mur.
Oh, nous savons tous les deux que c'est faux.
Elle est à l'abri, pensa-t-il. Il pouvait la laisser partir. Il ferma les yeux.
À présent, je suis complètement seul.
Brown contempla son visage d'une sérénité déroutante.
Veillez à ce que le prisonnier ne tente pas de s'échapper.
Ordonna-t-il à Tarnchik avant de quitter la cellule. Yogisha attendit le contact froid du métal sur sa peau et la pression sur la détente. Les deux arrivèrent plus vite qu'il ne l'aurait cru.
Соловьи, не тревожьте солдат. Пусть солдаты немного поспят. Солдатам стало не до сна, не потому, что пушки бьют, а потому, что вновь поют, забыв, что здесь идут бои, поют шальные соловьи. Соловьи, соловьи, не тревожь. Не спит солдат, припомнив дом и сад зеленый над прудом, где соловьи всю ночь поют, а в доме дом солдат. Соловьи. Yeah.
Il était presque 10 heures lorsqu'ils arrivèrent au chantier de la station de la Rosenthalerplatz. Et ils purent transporter le corps par la rampe, en toute discrétion. Arrivé à hauteur de l'échelle, le plus robuste des malfrats hissa Rosa sur son épaule, puis s'agrippa fermement au barreau glissant et amorça la descente. 3 minutes plus tard, le petit groupe, y compris Franz, se tenait dans la cavité principale où Pim avait disposé quelques torches.
« Parfait, »
dit Hoffner.
« C'est le dernier endroit où Braun pensera à chercher. »
Pim fit signe à son sous-fifre de déposer Rosa, puis chassa l'eau accumulée sur le bord de son chapeau.
« Ça y est, c'est bon ?»«
Je dois emmener Rosa dans une caverne du fond. »
Pim ordonna à ses hommes de repartir et se recouvrit.
« Amusez-vous bien, alors ?»«
1 minute. Je ne peux pas m'en charger seul. Pas avec mes côtes. »
Pim posa un pied sur l'échelle.
« Nous avons un emploi du temps à respecter, inspecteur. Nous l'avons amené ici. Si vous voulez la déplacer, à vous de vous débrouiller. »
Il invita le garçon à le suivre.
« Toi aussi, Franz. On s'en va. »
Le petit voyou s'éloigna vers Pim.
« Laissez-moi au moins le gamin. » 40 minutes, 1 heure au maximum. Je vais chercher de l'aide. Je veux qu'il surveille le corps.
Pim poussa un soupir exacerbé.
D'accord. 40 minutes, hein.
Rosa reposait paisiblement dans l'empreinte qu'avait laissée le corps de Marie Coupe. Après l'avoir nettoyée au mieux de la graisse, ils l'avaient vêtue. Malgré leurs efforts, elle avait les cheveux luisants et son visage gardait une brillance singulière, surtout à la lumière des torches. Agenouillée à côté d'elle, son manteau alourdi par la pluie, Hoffner se repassait depuis plusieurs minutes son rêve, celui du galet, où le soleil l'éblouissait alors qu'il essayait de la trouver. Étrange, songea-t-il, d'être seul avec elle à présent. Depuis le début, elle n'était pour lui qu'un ensemble de mots, une image dans sa tête, vivante et révoltée. Là, devant lui, elle semblait si peu de choses. Il ne voyait en elle que la mort, un cadavre, un outil, rien de plus. Encore une fois, on se servait d'elle. C'était là l'unique cause de remords chez Hoffner. Lorsqu'il entendit des bruits de pas résonner au-delà de l'entrée de la cavité, il serra plus fort son pistolet qu'il gardait près du sol, caché derrière le buste de Rosa. D'après les échos, plusieurs hommes approchaient. Il essaya de déterminer leur nombre exact, seul moyen qu'il trouva de rester sur le qui-vive. Une lueur s'intensifia. Le faisceau dansant sur les parois, Hoffner perçut des chuchotis, paroles indistinctes, atténuées par le bois et la terre. Un « ici » retentit, et quelques secondes plus tard, deux jeunes soldats, qui d'après leur uniforme appartenaient au Freikorps, pénétrèrent dans la chambre plongée dans la pénombre et braquèrent leurs fusils sur Hoffner. Braun entra juste après. Et lorsqu'il les eut dépassés, un autre apparut. Le visage d'une beauté frappante, il portait un petit bocal à la main.
Quel sens surprenant de la symétrie, Robert Commissaire,
déclara Braun avec son affabilité habituelle.
La Rosenthalerplatz, l'antre de Wouters. On pourrait même avancer que vous avez un côté sentimental.
Hoffner resta silencieux. Le deuxième homme approcha. Il ne s'intéressait qu'à Rosa et semblait perturbé.
Et ils ont enlevé Longan.
Braun l'arrêta d'un geste.
Écartez-vous du corps.
Hoffner ne bougea pas.
Dites à Herr Docteur Menstein que je ne représente pas un grand danger, Herr Braun, surtout avec 2 fusils pointés sur moi.
Braun ne montra qu'un bref instant de surprise.
Et qu'avez-vous appris d'autre à Munich, Herr Oberkommissar ?
Hoffner s'adressa directement à Menstein.
Votre beau-père a accompli un travail remarquable en construisant ce havre pour Wouters, Herr Docteur. Bien sûr, l'idée venait de vous.
Menstein scruta Hoffner en silence.
L'ingénieur Sazonov n'a pas dû être un gros sacrifice. Sa famille non plus. Inutile de payer les morts.
Il obtint confirmation dans les yeux de Manstein.
Ce qui a dû être difficile, c'est de rester loin de Munich aussi longtemps. Vous seul saviez comment appliquer l'Asconit 7-4 sur Fräulein Coupe. Et vous seul pouviez calmer Wouters avec les injections appropriées entre 2 escapades. Même si... je n'en doute pas, Herr Director Schumper était ravi d'avoir sa fille et ses petits-enfants auprès de lui.
Menstein le dévisagea, sans la moindre trace d'émotion.
Vous cherchez à m'impressionner.
Mais ce n'était pas votre seul rôle, n'est-ce pas, Herr Doctor?
Le regard de Menstein se durcit.
Est-ce qu'on pourrait l'abattre maintenant et passer à la suite?
Hoffner regarda Braun.
Ce serait une journée bien remplie pour vous, Herr Braun.
Même le dos au mur, vous ne baissez pas les bras. Votre attitude force le respect. Vous allez être mon deuxième ciseleur, Herr Hoffner. Sacrée histoire pour les journaux. Tu es votre propre femme. Il faut vraiment avoir l'esprit dérangé.
Lorsque Brown sortit son pistolet, six hommes de Pym surgirent de l'ombre, l'arme au poing. Deux apparus de part et d'autre de l'entrée, pressaient leurs canons contre la nuque des soldats. On leur remit vite les fusils. Ces mouvements soudains avaient perturbé l'inspecteur de la Polpo, et quand il se retourna, il se trouva nez à nez avec le Mauser de Hoffner. Après avoir désarmé Brown, Hoffner le dirigea vers deux chaises que Pym plaçait au centre de la cavité. Brown fit preuve d'un sang-froid remarquable.
« Dites-moi, »
fit ce dernier, alors que Zenlo le ligotait.
« Comment va-t-il, le petit Franz ?»«
N'ayez crainte. Il pense toujours qu'il vous rendait service. »«
Il saura donc que c'est vous qui aurez appuyé sur la détente quand on me découvrira mort. »
Hoffner rengaina son arme.
« Je ne vois pas pourquoi je ferais ça. »
Pym s'adressa aux hommes, près des soldats.
« Emmenez-les, occupez-les quelques heures. Butez-les s'il le faut. »
Hoffner attendit que les jeunes membres des Freikorps soient partis avant de prendre la parole. Il ramassa le bocal.
Votre réserve personnelle, Herr Doktor ?
Manstein resta muet.
Dans combien de temps aura-t-elle besoin qu'on la badigeonne de nouveau, à votre avis ?
Si vous ne comptez pas nous tuer, Herr Oberkommissar, la nuit va être très longue.
Déclara Brown.
Moi, je n'en ai pas l'intention, Herr Brown, mais je ne peux m'engager pour mes amis.
Hoffner jeta le récipient contre le mur, puis regarda le verre et son contenu se répandre par terre.
Waters, quel choix brillant. Des vieilles femmes et de la dentelle. Rosa Luxembourg et les attaques contre les Juifs. Tout s'imbriquait à la perfection.
Il se tourna vers Manstein.
Vous avez dû mettre des mois à le trouver. Mais en juin 1918, vous connaissiez déjà Sint Walburga et leur fascinant nouveau patient.
Hoffner vit dans le regard du médecin qu'il avait mis dans le mille.
Vous a-t-on appelé pour vous consulter au sujet de l'affaire d'origine ? Ou est-ce la lettre d'un confrère qui vous a aiguillé sur la piste de Herr Wouters ? Vous m'épatez, Herr Docteur. Vous saviez la guerre perdue, le Kaiser en mauvaise posture, et soudain nous étions en paix avec les Russes. Comment en prévoir ce que les socialistes nous réserveraient ensuite ? Voir aussi loin que novembre, la révolution...
Hoffner considéra Pym.
Ça, c'est impressionnant. Vous ne trouvez pas ?
Surpris qu'on le sollicite, Pym s'anima.
Oh que oui, très !
Manstein eut un grognement dédaigneux.
Vous n'êtes pas de cet avis, mein Herr ?
S'enquit Hoffner. Manstein se refusa à le regarder.
Ce n'est pas parce que vous ne comprenez rien à quelque chose que c'est impossible.
Sa voix possédait un timbre raffiné, fruit des universités qu'il avait fréquentées, de l'éducation qu'il avait reçue et du sentiment d'être dans son bon droit. Manstein ne cherchait en rien à dissimuler son mépris.
C'était une mesure de précaution. Visiblement, cela valait la peine de la prendre.
Donc, la seule raison à ces meurtres, ça a été de cacher celui de Frau Luxembourg ?
Manstein parut sincèrement décontenancé par cette question.
C'est ce que vous pensez, monsieur le policier.
Ce n'était pas le cas, mais Hoffner devait trouver un moyen d'accrocher le médecin. Brown se rendit compte de la ruse de Hoffner et tenta de l'arrêter.
Herr Docteur, vous n'avez aucune explication à
la ferme, Brown.
Il serait plus sage de me laisser m'en occuper.
Insista l'inspecteur de la Polpo.
Je suis ligoté à une chaise dans une excavation de chantier. Je crois que vous ne pouvez rien de plus pour moi. Il n'a pas la moindre idée de ce qui se passe.
Ce qu'il a, c'est elle. Et je n'ai pas l'impression qu'il compte nous la rendre. Vous n'allez pas nous la remettre, n'est-ce pas, Herr Oberkommissar ?
L'alliance entre la société de Tulé et de Polpo n'était qu'un mariage de convenance. Hoffner devait à présent en profiter.
Ça vous a plu, l'imitation, Herr Doktor ?
Pour la première fois, on sentit Manstein assailli par le doute.
Pardon ?
Hoffner ne laissa pas à Braun le temps de l'interrompre.
Dommage que vous n'ayez pas étudié votre patient de plus près. J'imagine que vous vous êtes montré trop astucieux par-dessus le marché.
Hoffner vit l'incertitude croître chez le médecin.
Longtemps, je n'ai pas compris pourquoi le travail au couteau de Wouters était si lisse, alors que celui du deuxième ciseleur était si irrégulier et incliné. J'ai supposé que c'était l'œuvre de quelqu'un comme Tamschkik, voire Braun, mais la tracée des entailles dans le dos des victimes était trop précise, trop proche de l'original pour que leur auteur ne possède pas une réelle adresse. Néanmoins, Une imitation trop parfaite aurait posé problème et vous avez dû altérer votre toucher. Après tout, Butters était fou et la folie n'impliquait-elle pas une certaine fébrilité? Vous avez dû l'observer en train de taillader le dos de ces femmes de façon à savoir reproduire le motif. Cependant, vous n'avez pas été assez attentif pour lui. C'était un art. Enfant, avoir les mains meurtries et ensanglantées ne l'avait pas empêché de réaliser les dessins les plus délicats. Son travail était irréprochable, contrairement au vôtre.
Marjan regardait devant lui, impassible.
La prostituée du Tigerton, vous vous êtes montré impatient. La Polpo voulait que vous attendiez, mais c'était inacceptable. Wouters ne tuait pas assez vite et il restait dans la mauvaise moitié de la ville. Il fallait qu'il passe dans les quartiers ouest afin que vous puissiez obtenir l'hystérie escomptée. Quel emplacement idéal, la station de métro du zoo. La menace venue de l'est qui s'abat sur l'ouest. Dites-moi, heure docteur, vous ne vous chargiez que des entailles ou aussi du meurtre?
Brown en avait assez entendu.
Ne le laissez pas continuer.
Manstein l'ignora.
C'était plus efficace de cette façon, n'est-ce pas?
Avec une hargne soudaine, Hoffner frappa Manstein au visage d'un revers de la main. Brown tressaillit. Mais le médecin ne montra quasi aucune réaction. Il lécha sa lèvre sanguinolente.
Ça vous a soulagé, Robert Commissaire?
Hoffner s'efforçait de se maîtriser. Comme il serait facile de battre cet homme à mort, pensa-t-il.
Pourquoi Frau Luxembourg?
Manstein cracha un filet de sang.
Vous vous en sortez à merveille tout seul, pourquoi ne me l'expliquez-vous pas?
C'est exactement ce qu'il cherche. Comment se fait-il que vous soyez incapable de vous en rendre compte?
Nouveau crachat de Manstein.
Vous ne percevez jamais le tableau dans son ensemble, Brown.
Manstein essuya son menton sur son épaule.
Poursuivez, inspecteur, voyons si vous êtes capable de comprendre avant Herr Brown.
Manstein voulait que l'on insiste pour qu'il s'explique, c'était évident. Le fait que Hoffner n'ait pas découvert pourquoi ne suffisait pas à le décevoir.
Frau Luxembourg n'était qu'un moyen pour parvenir à vos fins.
Si c'est pour me servir des évidences, autant m'abattre tout de suite.
Hoffner aurait volontiers accédé à sa requête, mais ce n'était pas la raison de sa présence. Il tenta plutôt d'imaginer dans quelle direction Yogische aurait emmené leur conversation.
D'accord. Berlin au bord du gouffre. Le corps de Rosa disparaît. Pas besoin de beaucoup plus pour répandre la crainte de représailles de la part des Rouges pour son assassinat. Les Rouges, prêts à frapper...
Hoffner donnait de l'élan à son récit.
Entrent en scène les Freikorps. Bien sûr, le gouvernement leur donne carte blanche pour éliminer la menace. Remercions-en votre ancien général, à présent à la défense. Et vous faites d'une pierre deux coups. On a purgé les socialistes et votre aile militaire a un pied dans la porte de la politique. Le tout au nom du rétablissement de l'ordre.
Hoffner réfléchit un instant.
En ce cas... Pourquoi ne vous tuerais-je pas?
Manstein ne se démonta pas.
Vous n'en ferez rien, Robert Commissaire, ça ne vous ressemble pas.
Le médecin attendit, poussa un long soupir, et avec une ingénuité surprenante dit
« Je pense donc que nous en avons terminé. »
Il se tourna vers Zenlo et agita les poignets.
Vous pouvez me détacher maintenant.
Vous oubliez qu'il y a un meurtrier en liberté. Oh, vous trouverez quelqu'un pour porter le chapeau, Robert Commissaire. Ça ne sera pas la première fois. N'est-ce pas?
Manstein s'adressa à nouveau à Zenlo.
Un couteau, s'il vous plaît, ça commence à être inconfortable.
Pim et Zenlo échangèrent un regard, guère mieux préparé que Hoffner à cette situation.
Et tout reprend comme avant? C'est ce qui est prévu, Herr Doktor?
Manstein parut dérouté.
Tout reprend comme... Je vais vous poser une question, Herr Oberkommissar. Combien de temps le peuple allemand supportera-t-il une Allemagne gouvernée par Friedrich Ebert? Il parle déjà de fuir Berlin pour prendre ses quartiers à Weimar. Comme avant. Est-ce que ça vous semble encore possible? Vous n'avez fait que repousser l'inévitable.
Malaise et silence s'installèrent dans la caverne. Hoffner tâcha de trouver une réplique, mais aucune ne lui vint. Si les hommes de Munich étaient passés si près du but cette fois, quoi qu'il fasse, Manstein le tenait. Quel choix lui restait-il? Hoffner s'adressa à Zenlo.
Donnez-moi votre couteau.
Zenlo regarda Pim, mais n'obtient aucune réaction.
Votre couteau.
N'ayant d'autre recours, Zenlo le lui remit. Hoffner s'agenouilla devant Manstein, puis, sans scier, lui plongea la lame dans le ventre.
Vous avez raison, Herr Doktor. J'ai bel et bien besoin de quelqu'un pour porter le chapeau.
On lut chez Manstein plus de stupéfaction que de douleur. Il toussa une fois et Hoffner tourna le poignard, qu'il leva et enfonça dans la chair. Il contempla les yeux de Manstein qui, la gorge étranglée, cherchait une réponse dans les siens.
Très peu de choses sont inévitables, Herr Doktor. Votre mort en est une.
Hoffner attendit que la ville abandonne. Le corps de Manstein fut agité d'un soubresaut, puis rendit son dernier souffle. Abasourdi, Braun s'était recroquevillé sur sa chaise. Hoffner lâcha l'arme.
Félicitations, Herr Oberkommissar. Vous venez d'arrêter votre deuxième Sizzler. Quelle journée mémorable pour la Polpo.
Braun retrouva sa voix.
Qu'avez-vous fait ?
Hoffner s'étonnait de ne rien ressentir. Ni soulagement, ni sentiment d'avoir obtenu vengeance. Il ne remarqua qu'une substance visqueuse sur sa main. Du sang, qui coagulait entre ses doigts. Et il sortit son mouchoir.
Grâce à moi, vous serez un héros de la République. Vous allez devoir être prudent concernant les informations à révéler, ne pas trop laisser fouiller la presse. Sinon, qui sait ce que les journalistes risquent de découvrir ?
Pourquoi me donnerais-je ce mal ?
Rétorqua Braun qui cherchait à recouvrer son calme.
Parce que,
dit une voix qui s'éleva à l'autre bout de la chambre.
Vous pourriez toujours être un héros mort.
Le criminel directeur Gerhard Weigland se tenait juste à l'entrée de la salle. Il était seul. Il regarda Pim et déclara d'un ton détaché.
« Bonjour, Albi. »
Pim et les autres demeurèrent silencieux pendant que Weigland s'avançait, lentement. Impossible de déterminer depuis combien de temps il était présent, même s'il semblait indifférent au cadavre de Manstein.
« Navré d'avoir manqué les festivités, Nikolai. » J'ai dû beaucoup insister pour convaincre le garçon de nous indiquer où tout le monde était parti.
Une fois de plus, Hoffner avait sous-estimé le divisionnaire. En lui recommandant de rester à l'écart de l'Alex, il avait réussi à obtenir l'inverse.
Il n'y a pas grand-chose à voir, Herr Director.
Apparemment.
Il se tourna vers Braun.
Votre ami Hernan Sold a préféré se tirer une balle dans la bouche plutôt que de répondre à nos questions sur Herrn Fischt. Herr Tamschik, lui, a montré moins de courage. Nous le détonons dans une cellule.
Je choisis le pistolet si ça ne vous dérange pas,
rétorqua Brown. Vagland ne le quitta pas du regard.
Non. Je crois que Nikolai a raison. Être vivant et acclamé en héros sera pire pour vous. Tous ces yeux rivés sur vous et vos amis...
Vagland attendait ce moment depuis longtemps et le savourait.
Mais la décision vous revient, Nikolai. Abattez-le si vous voulez. Je serai sur la place.
Il partit, en direction du tunnel. Hoffner comprit au bout du compte, cela n'aurait aucune incidence. Mais Vagland ne pouvait rester pour assister à l'issue de l'affaire. Hoffner retira le couteau de l'abdomen de Magstein et l'appuya sur son mouchoir.
« Vous abattre, »
dit-il avant de regarder Brown droit dans les yeux.
« Ce n'est pas tellement mon genre, pas vrai ?»
Il fourra le mouchoir dans la poche de poitrine de Brown.
« Votre portrait va bientôt paraître dans tous les journaux, Herr Oberkommissar. Un jour, il faudra que vous me racontiez quel effet ça fait. »
Hoffner savait que Pim avait raison. Vagland trouverait un moyen de faire avaler le morceau au journaliste, de donner à Berlin ce qu'il voulait. Un médecin fou de Munich procurait toujours une grande satisfaction au lecteur. Au cas où Brown aurait manqué un détail dans la caverne. Vagland avait remis les points sur les i à son retour à l'Alexanderplatz.
On a soulevé la pierre sous laquelle vous vous cachiez, mein Herr. Ça signifie que vous pouvez finir écrasé dessous à tout moment. Nous allons vous tenir la bride très serrée.
Le sort du ministre Nepp servirait à le lui rappeler. D'ici à quelques jours, la nouvelle de son accident mortel de cheval paraîtrait dans les rubriques des faits divers. Restait Rosa, à présent enveloppée dans une grosse toile et appuyée contre un arbre. Pim et Hoffner l'avaient traînée sur près d'un demi-kilomètre dans la neige, à travers bois. Et Pim n'avait pas encore repris son souffle.
« On y va ?»
Hoffner prit une dernière bouffée, puis se débarrassa de sa cigarette. Sans un mot, il s'avança, allongea Rosa par terre et déroula la bâche. Il avait insisté pour qu'il procède dans un endroit lointain, près de celui où on l'avait plongé des semaines plus tôt. Un lieu enfoncé à l'ouest. Celui-là lui convenait.
« C'est étrange de la remettre dans le canal. »
commenta Pim en se baissant pour l'aider. Hoffner la retourna sur le dos.
« Pas si étrange que ça. »
Entendre de nouveau la voix de Hoffner ne provoqua qu'une brève surprise chez Pim.
Ouais, pas faux.
Des rumeurs circulaient déjà. C'était dans le canal que la foule d'enragés l'avait jeté. Surtout, Hoffner savait que l'immersion gonflerait sa peau, déformerait les entailles et rendrait ses blessures méconnaissables. Elle finirait par remonter à la surface, d'ici un mois ou deux. Mais mieux valait cette solution plutôt qu'on la croie quelque part en train de fomenter son retour avec Erlenine. Pour trouver le repos, Rosa devait réapparaître. C'était le moins qu'il lui devait. Hoffner sortit de son manteau le galet de Martha. Il le tint dans sa main, le glissa dans une des poches de Rosa, puis se releva.
« C'est bon. »
Pim se redressa à son tour et ensemble, ils la portèrent jusqu'au bord. Au signal de Hoffner, ils balancèrent le corps en arrière, puis le lâchèrent dans le canal. Les bruits d'éclaboussures résonnèrent. Les clapotements redoublèrent de férocité. Puis ce fut le silence. Les deux hommes la regardèrent s'éloigner, emportés par le courant, son petit visage luisant sous le clair de lune. La respiration de Pim s'apaisa.
« Nous ne sommes pas si différents, vous et moi. Le monde nous jette quelque chose et nous nous en débrouillons. Nous ne faisons pas la fine bouche. Au bout du compte, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. »
Hoffner observait toujours Rosa. Il aurait voulu croire Pim, trouver de quoi justifier son choix. Il savait que la ville se remettrait, que le tueur au burin dériverait vite dans l'oubli, que même Rosa, lorsqu'elle réapparaîtrait, ne formerait qu'une étincelle fugace avant de quitter les esprits. C'était cette perpétuelle peur que son avenir soit plus certain que celui de Hoffner. L'eau tourbillonna et les jambes de Rosa s'enfoncèrent. Puis ce fut son buste et son visage. En quelques secondes, elle disparut. Hoffner garda les yeux sur les flots silencieux.
« Malgré nos efforts, nous n'avons rien accompli. À part, peut-être, gagner un peu de temps. »
Il suivit du regard ce qu'il imagina être la trajectoire de Rosa sous le courant.
« Ces hommes vont revenir à la charge. Et alors, nous repenserons à Rosa et à sa révolution. Et nous verrons combien nous étions naïfs. »
L'eau se figea. Hoffner se sentit soudain oppressé par l'endroit. Il avait besoin de l'Est et du Berlin qu'il connaissait. Là, quelque part, et là seulement, il trouverait une façon de rester en mouvement. Il se tourna vers Pim et ensemble, ils s'éloignèrent dans la longue nuit. Vous êtes bien sur le théâtre de la Gamelle Et vous avez entendu avant la lecture de Rosa, un polar de Jonathan Rapp qu'on a lu avec Hélène et Amandine. Donc on a lu que la quatrième partie. On participe en fait à un marathon de lecture radiophonique avec d'autres radios, Radio Dio, Radio d'ici et Radio Berlu. Et que l'intégralité de cette lecture de Rosa, de Jonathan Rapp, va être diffusée sur les ondes de Radio Dio le 31 mai prochain à partir de 17h. Donc si vous voulez lire ce roman, donc c'est un roman qui est publié chez 10-18 à Saint-Étienne, tous les deux ans maintenant, s'organise autour d'un collectif et notamment d'une artiste, metteur en scène, comédienne qui s'appelle Sabrina Laure, tout un programme autour d'un auteur. Il décide de prendre un auteur, des artistes, une ville, des lieux. Et autour de cet auteur, eh ben, ils vont décliner avec plein de petits ateliers, d'expos, vernissages, débats, projections, rencontres, lectures, formes théâtrales, expérimentales, concerts, etc., etc., etc. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations de ce qui se passe à Saint-Étienne sur leur blog. Quinzaine Rosa Luxembourg. C'est sur Overblog, mais quand même pour vous donner un petit avant-goût, par exemple, ce soir, Amandine et moi, on sera à Saint-Étienne, à l'Entrepôt Café, pour une petite performance lecture autour du programme de la Ligue Spartakiste. Par exemple, le 6 mai, je prends au hasard, il y a un café lecture, une exposition en fait d'Emily Weiss, une exposition photographique et un diaporama. Le 8 mai, une exposition de photographie aussi d'après les lettres à Sophie. Donc voilà, il y a plein d'expos jusqu'au 28 mai, un peu partout, à Ursa Minor, à la Pocop Bar, la Ruelle, médiathèque de Tarentaise, au théâtre Le Verseau. Concernant les débats, les conférences, vous pourrez venir à Saint-Étienne le 7 mai. Donc par exemple le 7 mai au Choc Théâtre, il y a une conférence de donc Dominique Poiret, c'est une ancienne militante de Action Directe qui a été incarcérée. Et elle fait une thèse en fait sur Rosa Luxembourg et donc elle a été invitée à cette occasion par exemple pour faire un débat autour de l'actualité de la pensée et de l'action de Rosa Luxembourg. Donc je répète, c'est le 7 mai avec Dominique Poiret au Choc Théâtre à 18h30 à Saint-Étienne. Vous pouvez aussi venir le 20 mai à la médiathèque de Tarentaise. Il y a une table ronde autour de l'édition engagée, la libre circulation de la pensée et de la traduction, avec Éric Sevaux, qui est du collectif d'édition Smolny. Sachez que les éditions Smolny, avec les éditions Agone, c'est-à-dire que les éditions Agone et les éditions Smolny ont décidé de rééditer l'intégralité des œuvres de Rosa Luxembourg. Donc voilà, si vous voulez un peu connaître leur démarche, comment ils s'y prennent et pourquoi c'est important pour eux de rééditer tout et de tout traduire, et bien venez donc le 20 mai à Saint-Étienne à la médiathèque de Tarentaise. Le lendemain, vous pouvez venir écouter et discuter avec Mylène Gollard, qui est une économiste spécialisée en économie du développement autour de l'accumulation du capital. Voilà, sinon, y a tellement de choses à vous que je vous conseiller. Je ne vais pas manquer de vous citer quand même la proposition que met en scène Sabrina Laure. Donc, qui s'appelle Les Souliers Rouges. C'est des traces fragmentaires de la correspondance de Rosa Luxembourg et de son expérience de la prison. Donc ça, c'est les 24, 25, 28 mai au Choc Théâtre. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde. Il y a des performances. Ça c'est un truc chouette, ça aussi. Le 28 mai à la Ruelle, il y a l'intégrale des spectacles. Le manifeste de Brecht qui est chanté par la Barricade. Venez, allez tout voir en fait, tout est intéressant. Voilà, par exemple, le 22 mai à l'Estaminet, je prends au hasard, lecture et chansons d'après les poèmes de Berlin d'Armand Gatti, par Romuald Bailly. Je sais qu'il y a Armand Gatti aussi qui vient, ça qui est. Il y a Armand Gatti qui vient, je crois qu'il vient le 21 mai ou le 22 mai. Au Choc Théâtre, le 23 mai, conférence apéritive Résister et Exister avec Armand Gatti, dramaturge, poète, cinéaste et auteur de Rosa, collective et poèmes de Berlin. Avec un projet croisé qui s'appelle Les mots contre les mots.
Donc tu dis que ça, c'est quel jour ?
Le 23 mai au Choc Théâtre. Okay. Donc on parle tout ça à Saint-Étienne, évidemment. Et puis il y a des concerts, il y a un loto bingo le 31 mai à Ursa Minor. Enfin, tellement de choses que vraiment... Ah voilà, j'ai enfin retrouvé l'adresse du blog. Donc vous retrouvez tout le programme donc sur www.quinzaine-rosa-luxembourg.blogspot.com. Puis nous, on vous retrouve la semaine prochaine avec
La semaine prochaine, c'est une émission qui est consacrée à l'association des rescapés de Montluc. Et donc on recevra Robert Pédron qui est un membre actif de l'association, et on lira également des livres, un livre qui a été écrit par André Pédron, son papa, qui a été arrêté pendant la guerre, interné à Montluc et déporté. Et Robert Pédron a lui-même écrit un livre sur cette période-là qui s'appelle Avec mes yeux d'enfant. Donc on lira des extraits de ces deux livres-là et on parlera de leur association.
On n'a plus qu'à vous dire à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut,
au revoir.
Tout le monde.
Bon week-end.
Au revoir.